Vous écoutez RTL.
Oui, bonjour à tous. On vous propose la chute de l'empereur. Avril 1814, Napoléon vient d'abdiquer, mais il refuse de signer le traité qui doit l'envoyer sur l'île d'Elbe. Pour y échapper, il va tenter de se donner la mort. C'est une page méconnue de l'histoire de Napoléon Ier que l'on vous fera découvrir tout à l'heure. Ce sera vers 14h30 sur RTL.
Mais tout de suite, dans la curiosité, retour sur le destin fracassé de Jean-Luc Delarue, l'animateur star, l'animateur surdoué des années 90-2000.
RTL.
Madame, monsieur.
La curiosité est un vilain défaut.
Bonsoir et bienvenue sur France 2, ce qui est également valable pour moi. Cette émission est donc une première. La première de 16 discutes.
Avec Anaïs Bouton et Thomas Hugues.
16 discutes, comme son nom l'indique, met le doigt sur des sujets qui ont la particularité de faire réagir tout le monde. Donc nous espérons de vous faire réagir en espérant, comme le chante Francis Cabrel, d'ouvrir, ouvrir les portes des conversations.
Allumez les postes de télévision.
Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Savez-vous que la curiosité génère de la dopamine, c'est-à-dire la molécule du bonheur qui nous excite et qui nous motive,
et Thomas. Pendant qu'elle dit ça, Anaïs, elle me touche le bras. Donc comment vous dire que cette émission commence très très bien, c'est très
mais
agréable.
Oui, c'est pour ça qu'on est si bien sur RTL, entre 14 et 15 tous les jours. La curiosité, c'est l'émission qui rend heureux. Bonjour Thomas.
Salut Anaïs, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est vrai, vous le savez, ici on se passionne pour un peu tout. Notre curiosité est sans limite, l'aventure, la science, la nature, l'histoire et aujourd'hui, les grands destins.
Et les grands destins, oui, avec un livre événement sur une des dernières grandes stars de la télévision, Jean-Luc Delarue. Bonjour Vincent Mellet.
Bonjour.
Vous avez été un des patrons emblématiques de France Télévisions. Oh oui, vous respirez, vous soupirez. On vous doit des émissions populaires, des programmes à succès comme Plus belle la vie. Et puis plus récemment, vous produisez Demain nous appartient, mais ça c'est sur TF1.
Ah oui, vous avez basculé d'un groupe à l'autre alors quand même. Ça arrive dans le métier, ça arrive.
Alors d'abord, mais comment vous est évidemment venue l'idée de ce livre sur Jean-Luc Delarue? Vous le connaissiez, il était votre aîné de 2 ans. Et vous, quand vous le rencontrez, vous êtes chargé d'études. C'est bien
oui,
ça, à France Télévisions.
Donc on s'est croisés, on a travaillé ensemble. Mais à l'origine de ce livre, j'avais très envie d'écrire. Et c'est vrai que très vite, j'ai pensé que mon expérience de télévision, je voulais la raconter par un livre, mais pas au travers d'un destin romanesque, c'est-à-dire quelqu'un a un destin extraordinaire, mais qui me permettait de raconter les coulisses de la télé et même les coulisses de l'époque et montrer tout le caractère émotionnel de la télévision. Je pense qu'on fait la télévision avec ses tripes. Et c'est vrai que Jean-Luc Delarue était quelqu'un particulièrement sous ses doubles faces, intéressant du point de vue romanesque.
Et il vient faire quoi, Delphine Ernotte, la patronne de France Télé, là-dedans?
C'est un peu le hasard. C'est le début du livre. Je sors de son bureau, je viens de me faire licencier relativement brutalement, mais très vite, je vois défiler dans ma tête toutes mes années télé et sur les deux contrastes. D'une part, à un moment, j'ai dit, putain, j'ai 50 ans, est-ce que je vais pouvoir rebondir, bien sûr. Et après, je pense à Jean-Luc Delarue par hasard, parce que Jean-Luc Delarue est sans doute quelqu'un qui m'a fait rêver en tant que téléspectateur avant de commencer à travailler à la télé. Et c'est la première personne avec qui j'ai travaillé sur une grande émission, le lancement de Ça se discute. Et par ailleurs, je voulais vous parler aussi de la souffrance à la télé. C'est-à-dire, la télé, c'est du grand bonheur, c'est une passion qu'on paye souvent très cher. Et Jean-Luc Delarue en est un exemple particulier.
Oui, il l'a payé très très cher. Alors, il symbolise quoi pour vous, Jean-Luc Delarue?
Alors oui, il y a plusieurs époques de Jean-Luc Delarue. Le premier hasard de Jean-Luc Delarue, c'est qu'il commence sa carrière télévisuelle bien avant moi, autour des années 86. Alors, rappelons les années 86, on était à quelques chaînes publiques, Canal Plus venait d'être créé et on créait les premières chaînes privées. Et donc lui, et on créait aussi par ailleurs les premières radios libres. Et donc il commence sa carrière à 22 ans à Arc-en-Ciel, à la radio et sur TV6. Et il apparaît très vite comme...
TV6, c'est un peu l'ancêtre d'M6.
Voilà, exactement. Ouais. C'était la radio des jeunes. Mmh. Et très vite, il apparaît comme l'animateur à casquette et en t-shirt avec un ton que celui de la rue, celui de ma génération. Et quand il arrive, après il va à Europe 1, il renouvelle et il vient vraiment l'animateur qui symbolise une nouvelle ambition pour la télévision, de s'ouvrir sur la société. Pour moi, c'était ça, Jean-Luc Delarue, avec un ton nouveau. Et puis une ambition, ça c'est la première rencontre avec lui, où il a toujours pensé pour lui, il a toujours pensé pour une société qu'il a créée, qui est Réservoir Prod, mais surtout, il voulait incarner sa génération. Et ça, c'était pour moi quelque chose qui me parlait. Et quand j'ai redécouvert Jean-Luc Delarue au travers des trentaines d'entretiens que j'ai pu faire, c'est vrai, j'ai retrouvé une certaine connivence avec lui à ce moment-là, presque plus que dans la vie réelle.
Alors, vous nous l'avez dit, il commence la télé très jeune, il a seulement 22 ans. Jean-Luc Delarue, il y a le Delarue côté lumière, celle que tous nos téléspectateurs ont en tête. Et puis il y a un personnage beaucoup plus complexe que vous allez nous aider à comprendre, à découvrir. Vincent Mellet, restez avec nous sur RTL.
RTL.
Alors c'est quoi le style de la rue?
J'en sais rien, c'est à vous de me le dire. J'en sais aucune idée. Direct, je pense. Ouais. Direct,
rapide.
Simple, rapide sans doute. Ouais. Et puis j'espère que vrai, quoi.
La curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Un certain paparazzi a fait circuler dans certaines rédactions qu'il avait sous la main mon dossier médical complet et qu'il était prêt à le vendre au plus offrant. Maintenant, la question que je me pose aujourd'hui, c'est si j'avais eu le choix de le dire ou de ne pas le dire, est-ce que je l'aurais dit ? Je ne sais pas.
Voilà, c'est l'une des dernières prises de parole publiques de Jean-Luc Delarue que l'on vous fait écouter sur RTL. On raconte le destin de cet animateur star des années 90, des années 2000, avec Vincent Mellet, l'ancien patron, entre autres, des programmes de France 2. On va pas faire toute la liste des titres que vous avez portés à France Télévisions, notamment, et aujourd'hui pour TF1, parce que vous produisez pour TF1. Jean-Luc Delarue, l'homme qui ne s'aimait pas, c'est le titre du livre que vous publiez chez Fayard. Vous faites un parallèle entre son destin et celui de la télévision en général. Pourquoi ?
En fait, voilà, Jean-Luc Delarue, donc, c'est l'histoire d'une ambition et d'une ascension fulgurante, qu'on peut tracer en trois étapes. C'est tous les débuts des années 80, donc ce que je disais tout à l'heure, la diversification. Donc, il arrive le jeune animateur dans des petites émissions de télévision. Les années 90 et 2000, c'est le grand succès avec le grand public. On est encore dans une télévision avec très peu de chaînes en tant que telle. Jean-Luc Delarue, c'est un de ceux qui entrevoit très vite l'arrivée d'Internet, mais qui au début des années 2000 passe dans une ivresse de puissance, et la télévision là est hyper puissante, et les deux ont oublié de penser leur avenir. Voilà, donc j'ai fait ce parallèle, et c'est vrai que ça me permet de passer de l'un à l'autre, parce que j'ai voulu surtout une fois plus raconter une histoire humaine et une histoire émouvante autour de cet homme-là, mais quelque part interroger ce média qui n'existe plus. Et c'est ça aussi que j'ai pris conscience en partant du bureau de Delphine Ernotte.
C'est la télévision
généraliste, super puissante, qu'on faisait 50% de part de marché. Mais surtout, le mercredi soir, les gens se couchaient très très tard pour voir ça se discute. On avait à peu près une audience télé équivalente à celle du samedi soir où on travaille pas le lendemain.
Ouais, tiens,
donc c'était une émission qui faisait parler, qui est restée dans les mémoires dans plein de moments.
Bien sûr. Et Vincent Mellet, tiens, l'un des derniers qui fait 40% de part de marché et plus, c'est Jean-Pierre Pernaut qui vient de lâcher le 13h pour quelques jours ou quelques semaines pour se soigner. On lui fait un coucou amical. Vous parlez dans ce livre du corps. Quelle différence entre celui de la rue et celui, par exemple, tiens, je pense à De Chavannes. De Chavannes, c'est quelqu'un qui, comme animateur, joue beaucoup avec son corps, avec ses mimiques, avec...
Moi, je voulais vous dire, c'est la caractéristique de tes grands animateurs. Tous les grands animateurs, de Jacques Martin à Barthez aujourd'hui, jouent avec leur mimique, leur corps. C'est pas simplement une diction, c'est pas simplement des questions et des réponses. Lui, il en jouait...
Une capacité à occuper l'espace,
voilà,
c'est ça.
En fait, il y a deux rapports au corps que je décris. Le premier, c'est celui de l'animateur, et notamment dans sa discute, qui était prévue au début où il devait animer assis. Il s'est mis debout et il avait toute une interview qui envoûtait la personne, et quand on voyait notamment les meilleures émissions de sa discute, c'est avec des enfants, on a l'impression que son corps redevenait enfant pour se mettre à la hauteur de son interview ouvert. Donc il jouait de toutes les mimiques. Et après, dans sa face noire, je précise qu'il a toujours pensé que son corps était son gagne-pain et qu'il fallait absolument le préserver quoi qu'il arrive, à coup de sport et ailleurs. Et donc, il y a toute une obsession à ce que rien ne se voit dans son expression quotidienne.
Il était très exigeant, c'est ça ? Vous décrivez quelqu'un qui met en place
énorme professionnel. C'est quelqu'un qui avait un grand talent d'animateur, comme je l'ai dit, qui lui est tombé un peu par hasard. Il avait d'autres ambitions à côté. Et il savait que son talent n'était rien sans les autres. Donc il a créé une grande société de production, était très exigeant avec toute sa société. Toutes ses émissions étaient ultra préparées. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il fait allusion à Tarantino dans le nom de sa société. C'est que Tarantino, mais la musique est tout aussi importante que l'histoire et que la direction d'acteur. Et lui, ce que j'ai dit, il faisait ses émissions façon puzzle. C'est-à-dire que toutes les pièces étaient ultra importantes. Et d'ailleurs, il crée son propre personnage. Même si à un moment, il le déteste, il crée ce Jean-Luc Delarue, genre idéal. Il le pense. Moi, il le décrit théoriquement avant même que ça se discute commence. Donc, il savait très bien comment il voulait être. Et au bout d'un moment, il ne supporte plus ce personnage-là parce que les gens adorent un être, un autre que soi. C'est qu'on est connu. En fait, vous donnez un autre que soi au public et les gens aiment quelqu'un d'autre qui est vous-même. Et après, vous ne savez plus qui le public.
Ça vous échappe.
Et on peut s'y perdre, effectivement.
Alors, à partir de 1994, on en a parlé. Donc, ça se discute, la période inouïe qu'il va connaître Jean-Luc Delarue.
Alors, le succès n'est pas immédiat, mais ça arrive vite.
Oui, c'est vrai. Le succès n'est pas immédiat. On en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs. Parce que Jean-Pierre Elkabbach a tenu. On lui disait fais sauter, arrête le massacre. Et en fait, il a tenu.
Exactement.
Bon, et il a installé son animateur et son émission. Mais une nuit, c'est le choc. L'animateur tente de se suicider. Et est-ce que c'est là le point de départ de sa descente aux enfers ? Vous allez nous raconter ça tout de suite sur RTL, Vincent Millet.
RTL.
Il est 8h16. Et donc ce matin sur RTL, Yves Calvi, vous êtes avec Jean-Luc Delarue.
Bonjour Jean-Luc Delarue.
Bonjour Yves Calvi.
La curiosité est un vilain défaut.
Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Le regard des autres ou finalement votre propre regard sur vous-même ?
Oh non, de loin mon regard sur moi-même, quoi. C'est-à-dire vraiment cette impression d'avoir donné un mauvais exemple pour les jeunes, quoi.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Dans la vie, ça fait jamais de mal, on s'excuse jamais trop, quoi. Voilà, donc je présente mes excuses d'avoir donné ce mauvais exemple. Je pense que c'est la base pour pouvoir avancer.
Merci d'avoir choisi RTL et bienvenue dans le studio de la curiosité. Si vous nous rejoignez, on est avec l'ancien directeur des programmes de France 2 qui publie un livre événement sur une icône de la télévision, Jean-Luc Delarue. Alors à la télévision, dans ces années-là, il y a en quelque sorte le bon Michel Drucker, la brute Thierry Ardisson et le truand Christophe de Chavannes.
Ça va leur faire plaisir.
Son parcours au départ, Europe 1, Canal+, et puis à un moment, la machine s'emballe. Il y a les débuts de Ça se discute, et puis quoi ?
Une fois de plus, il y a une fragilité dès le départ de Jean-Luc Delarue. C'est dans le titre, même si quelque part j'ai trouvé le sens de ce livre en toute fin de l'écriture. Il avait une exigence par rapport à lui-même, démesurée en tant que tel, une soif de reconnaissance qui était insatiable en tout cas. C'est un mécanisme qui s'emballe d'étape en étape. Et c'est vrai que Ça se discute commence dans une période, doucement en termes d'audience, et il a sans aucun doute, il a à peine 30 ans, il n'est pas encore totalement, on est adulte à 30 ans mais on n'est pas encore d'une grande maturité. À ce moment-là, il a sous-estimé la pression, c'est-à-dire la pression de ses patrons de France Télévisions qui veulent des résultats, la pression de sa société qu'il dirige, donc d'une dizaine de salariés qui lui demandent des choses, sa propre pression en tant que telle, surtout qu'il anime une émission quotidienne sur Europe 1, il fait 2 directs par semaine à la télévision, et après les enregistrements, il y a une adrénaline en lui, il a du mal à redescendre, et c'est là où il y a une consommation de substances souvent médicamenteuses et pas forcément encore de la cocaïne. Et un soir, donc il y a un moment, il exprime un ras-le-bol en disant qu'il n'y arrive pas, et donc il y a cet accident de voiture.
Moi, j'ai connu un petit peu Jean-Luc Delarue. Est-ce qu'il était bien entouré ? C'est-à-dire, on va peut-être commencer par la famille. C'est quoi son environnement familial ? Est-ce qu'il est soutenu ?
Honnêtement, je pense qu'il est très bien entouré. Après, il a des relations difficiles avec son entourage. Donc, l'histoire de sa famille, c'est une histoire familiale compliquée. Il y a un divorce quand il est jeune. Il se rapproche beaucoup de sa grand-mère. Et il est dans un milieu de classe moyenne et intellectuelle, universitaire. Lui, il est plutôt enfant surdoué, mais pas réussite à l'école. Et il a l'impression qu'il n'est pas à la hauteur de ses parents. Voilà, des attentes de ses parents.
Ce sentiment d'imposture un petit peu
J'essaie d'expliquer et je laisse le lecteur aussi faire son opinion au fur et à mesure. Je pense qu'il est très conscient qu'il a une intelligence au-dessus de la moyenne et il a très vite conscience que cette intelligence n'est pas reconnue par l'institution scolaire et quelque part, l'institution scolaire est fortement représentée par ses parents. Et donc, il a cette dichotomie entre une intelligence réelle, qu'on lui reconnaît aussi par ailleurs. Après, ses parents sont un peu comme lui, c'est-à-dire très exigeants, et plus dans les reproches, plus dans la satisfaction que dans l'encouragement en tant que tel. Et d'ailleurs, quand il dit qu'il aime beaucoup sa grand-mère, qui est elle, et quelqu'un qui détient un pressing, c'est aussi parce qu'il le prend pour ce qu'il est.
Mais sa mère l'a laissé, l'a confié à sa grand-mère.
À un moment de sa vie.
Et il lui reprochera d'ailleurs.
Il lui reproche. Après, honnêtement, les rapports avec sa maman, je les raconte, sont très complexes et j'ai eu du mal à remettre un peu dans l'ordre. Parce que dans les années 80, quand je le connais, en 94, sa mère est très présente. Elle est même très, très, très derrière toutes les décisions. Et plus tard, il la diabolise de manière un peu excessive. Et sans aucun doute, c'est sans doute la rupture avec sa maman. Est la première fois où il rompt avec quelqu'un de proche.
Elle n'était pas à son enterrement, sa maman.
Oui, alors il y a plusieurs explications autour de ça, mais c'est un simple loin.
Tiens, je vous propose d'écouter cette chanson.
J'aurais voulu être un artiste.
Eh oui, on a choisi ça, Vincent Mallet, parce que vous racontez au fond que, contrairement à ce que dit la chanson, Jean-Luc Delarue, il voulait pas être un saltimbanque, lui. Il est arrivé là par opportunisme. Il voulait être un businessman. Il voulait sa tour. Et vous le dites, vous le racontez quand il est avec son copain sur la terrasse. Et quand il voit la tête de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, en une du Times, en fait, ce qu'il aurait voulu faire, on en parle tout de suite sur RTL, c'est être un grand chef d'entreprise, tycoon. À tout de suite sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Anaïs Bouton, Thomas Hugues.
Et Jean-Luc Delarue au programme de notre curiosité, toujours avec Vincent Mellet, ancien patron de France 2, aujourd'hui producteur. Vous publiez Jean-Luc Delarue, La star qui ne s'aimait pas. Il nous reste 2-3 minutes là, on va parler finalement de ce qu'il n'a pas tout à fait réussi à être. Il rêvait de devenir un tycoon, un chef d'entreprise peut-être de dimension internationale.
Il y a plusieurs histoires autour de ça et c'est vrai que bon, Jeff Bezos, c'est quelqu'un qui est donc le PDG d'Amazon, est né la même année que lui et a créé Amazon en 94, la même année que lui réservoir prod. Ouais. Et donc il est vert quand il le voit à la tête du Time en 2000. Il dit, lui, il va être maître du monde et moi je suis vulgaire producteur audiovisuel. Et moi, c'est un peu la philosophie sur le destin de Jean-Luc Delarue. Je raconte aussi d'autres choses sur la télévision. C'est que le talent est injuste parce que vous le choisissez pas, votre talent. Lui, il a le talent d'être animateur, il a le talent d'être un bon producteur artistique. C'est rare pour un animateur d'être un très bon producteur artistique pour d'autres animateurs. Donc il avait très peur. Par exemple, nous, quand on négociait avec lui, on pensait que c'était le meilleur négociateur du monde. Et quand il arrivait, en fait, il appréhendait cette confrontation et il prenait des substances illicites pour être à la hauteur. Donc il avait tellement peur, il se mettait une pression énorme là-dessus sur la puissance. Et c'est vrai, comme je le dis, en fait, aussi, Jean-Luc Delarue, il y a un problème social, en tout cas. Il interviewait des gens issus de la classe moyenne, il représentait la classe moyenne. Il avait une double fascination. La fascination des gens venant de la rue, il en a croisé beaucoup dans sa vie en tant que tel, et aussi les grands patrons, l'élite. Et là, il n'avait pas les codes. Et là, il redevenait petit garçon complexé face à ça.
Merci beaucoup. Merci, voilà. Vincent Mellet.
D'être venu dans la curiosité. On a lu avec passion votre livre, Jean-Luc Delarue, La star qui ne s'aimait pas.
Et c'est publié chez Fayard. Voilà. Merci beaucoup d'être passé nous en parler.
Thomas Hugues, Anaïs Bouton.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.